Il y a 2 semaines, vous avez vu ces aurores boréales couvrir le ciel liégeois. Eh bien aujourd'hui, on va chercher à comprendre pourquoi on les voit aujourd'hui en Belgique. On est avec Rosario Spagnolo, il est administrateur à la Société Astronomique de Liège et on va parler avec lui de notre ciel, d'aurores boréales et d'autres choses. Mais d'abord, abonnez-vous, likez cette vidéo, ça nous aidera bien. Rosario, bonjour.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va bien et toi?
Ça va très bien. On va parler astronomie aujourd'hui. On va parler un peu de notre ciel avec ce ciel qui était complètement fou il y a 2 semaines. Teinté de violet et de vert. Mais d'abord, on va te présenter. Qui es-tu, Rosario?
Alors, je suis un administrateur à la Société Astronomique de Liège, une ASBL qui vise à vulgariser l'astronomie pour n'importe qui et presque n'importe où en Belgique, j'ai envie de dire. Surtout en Ardennes, en réalité, mais on y reviendra.
On y reviendra, oui.
Sinon, je suis astrophysicien. J'ai fini des études en astrophysique à l'Université de Liège. Et je suis ici avec toi aujourd'hui pour parler un peu de nos aurores boréales, celles qu'on a vues, les magnifiques qu'on a vues il y a quelques jours d'ici.
C'est ça, elles étaient magnifiques et plutôt intenses alors, parce qu'on voyait du vert, ce qui n'est pas très commun.
C'est vrai.
On va y revenir juste après, mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on a vu des aurores boréales en Belgique il y a 2 semaines?
Alors, ce qui se passe, c'est que les aurores boréales, c'est quelque chose qui peut être visible surtout au niveau des pôles, au pôle nord ou au pôle sud. Maintenant, pour voir des aurores boréales aux latitudes plus moyennes, comme en Belgique par exemple, il faut qu'il y ait énormément d'énergie qui rentre dans le champ magnétique de la Terre. Pourquoi est-ce qu'on peut voir des aurores boréales en Belgique? Pour ça, il faut comprendre d'où viennent les aurores boréales. Et il y a énormément de gens qui pensent que les aurores boréales ont un rapport avec les vents qu'il y a dans le ciel, ou les nuages, ou les gradients de température, air chaud, air froid, pas du tout en fait. L'aurore boréale, les aurores en général, ça vient de l'espace, et ça vient du soleil plus précisément. Le soleil, notre étoile, on peut imaginer ça comme une grande marmite d'eau chaude qui est en ébullition. Parfois, on a des grosses bulles qui sortent du soleil. On appelle ça des éruptions solaires. Ces éruptions solaires, elles peuvent éjecter des particules solaires. Dans ce cas-là, on parlera d'éjection de masse coronale. Et ces particules solaires sont envoyées à des vitesses extrêmement élevées jusqu'à la Terre, si cette éjection de masse coronale, est bien dirigée vers la Terre. Et dans ce cas-là, ces particules solaires, qui ont énormément d'énergie, vont interagir avec le champ magnétique de la Terre et interagir, entre autres, avec l'atmosphère de la Terre, ce qui va donner ces belles couleurs dans le ciel. Et alors, pour que les aurores boréales soient visibles en Belgique, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de particules solaires qui arrivent au niveau de la Terre. Et c'est ce qui s'est passé, entre autres, il y a quelques jours d'ici.
Ça veut dire alors que le soleil est en pleine activité, là, en intense activité, parce que le soleil fonctionne par phase, alors.
Oui, complètement. En fait, le soleil, c'est comme un volcan. Un volcan, il y a des moments où il est endormi, et il y a des moments où il est réveillé. Eh bien, le soleil, c'est la même chose, sauf que c'est beaucoup plus périodique que les phases d'un volcan. Le soleil, il a des cycles solaires de 22 ans. Pendant 11 ans, il va être endormi, et pendant 11 ans, il va être réveillé. Et c'est durant sa phase de réveil où le soleil a beaucoup plus de chances d'induire ces fameuses éruptions solaires et donc ces éjections de masse coronale. Par conséquent, il est plus probable d'avoir des aurores boréales, des aurores tout court aux latitudes moyennes, lorsque le soleil est en phase de réveil. Et c'est le cas ici en ce moment, le soleil est réveillé, et c'est pourquoi on a vu des aurores boréales il y a quelques jours en Belgique. Ouais.
On en a publié des photos donc de ces aurores boréales qu'on a pu voir, et on remarquait que ça a été vu dans notre localité. Mais on n'en a pas vu d'autres de plus loin, tu vois. Alors pourquoi ça a été spécifiquement vu dans nos localités?
Alors ici, ça n'a pas été vu qu'en Belgique. En fait, ça a été vu entre autres aux latitudes qui sont égales à la latitude belge. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre la Terre, de tracer une horizontale où la Belgique passe, et ben partout sur l'horizontale, du côté nuit, il y a eu des aurores boréales. À Berlin, par exemple, aussi, entre autres. Maintenant, ça dépend de la météo, bien sûr. S'il y a des nuages, on verra rien. En Belgique, nous, on a été particulièrement chanceux parce que, comme c'est assez rare, mais on a eu de la chance. Cette fois-là, en Belgique, il y avait un ciel dégagé. Et en Belgique, c'est rare quand on a un ciel dégagé. Donc là, toutes les planètes étaient alignées, si je puis dire. Et on a eu la chance d'avoir des aurores boréales. D'ailleurs, le jour où il y a eu énormément d'aurores boréales, c'était pas le seul jour. Le lendemain aussi, il y en avait. Mais le lendemain, comme on a l'habitude en Belgique, il y avait des nuages. Et donc, on a su rien voir.
Et comment t'as pu savoir qu'il y en avait le lendemain, alors?
Alors, ce qui se passe, c'est que savoir quand est-ce qu'il y aura des aurores sur Terre, on peut prévoir un petit peu. C'est comme la météo, on peut prévoir quand il pleuvra en Belgique ou quand il neigera. Eh ben, on peut prévoir avec plus ou moins de certitude quand il y aura des aurores en Belgique, entre autres. Ce qui se passe, c'est qu'on a des satellites de surveillance qui regardent sans cesse le Soleil. Et dès qu'on voit une éruption solaire, eh bien alors on a plein de données qui nous permettent de connaître son orientation, son intensité, et savoir quelle est la probabilité que cette éruption induise des aurores en Belgique, entre autres. Donc ça, on analyse tout le temps le Soleil. Donc on peut prévoir. Maintenant, c'est pas une science précise, dans le sens où, lorsqu'on a une éruption, et donc une éjection de masse coronale, qui s'échappe du Soleil, eh bien, c'est difficile de savoir avec certitude quand aura lieu l'impact. Il y a plein de gens sur les réseaux, sur la page Facebook de la Société Astronomique de Liège, qui nous ont demandé « Pouvez-vous nous dire l'heure précise où on aura des aurores ?» C'est juste pas possible. Parce qu'on sait, lorsque on connaît le moment où il y a l'impact, lorsque l'impact touche les satellites de surveillance qui sont jusqu'à 1 500 000 km de la Terre. Par rapport à la distance Terre-Soleil, c'est rien. Le Soleil, il est éloigné de la Terre de 150 millions de kilomètres. Ça veut dire qu'il y a à peu près 149 millions de kilomètres où on ne sait pas où est ce choc de plasma, où sont ces particules solaires hautement énergétiques. Et c'est seulement lorsque ces particules solaires touchent les satellites de surveillance que là, on peut se dire, OK, dans à peu près une heure, on aura des aurores. Ça dépend de la vitesse des vents solaires, bien sûr, mais c'est difficile de savoir avec certitude l'heure précise où on aura des aurores boréales. C'est pour ça qu'il faut surveiller presque en temps réel le ciel avec ses yeux. Il n'y a rien d'autre à faire et rien de plus certain que regarder avec nos yeux, ça c'est sûr. Ça. D'ailleurs, ça, c'est un petit fun fact, mais les aurores visibles dans l'hémisphère sud, en Antarctique, on parlera d'aurores australes. Aurores boréales, c'est dans l'hémisphère nord. En Belgique, en Laponie, ce sera des aurores boréales. Ici, on va parler d'aurores tout court. Les aurores sont visibles au pôle à peu près tout le temps. Même lorsque le Soleil est en phase de repos, le Soleil émet tout de même des particules solaires, certes moins énergétiques, mais l'énergie de ces particules est suffisante que pour donner des aurores au pôle.
Tu dis qu'il faut utiliser nos yeux pour regarder, mais quand on regarde, quand on regardait il y a 2 semaines, on voyait quelques traces, mais on voit, il n'y a pas distinctement du vert ou du violet, quoi. Alors comment est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser un appareil photo? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Déjà, ça dépend où on regarde le ciel. Bien sûr que si on est en plein centre-ville de Liège, il y a tellement de pollution lumineuse et tellement de lumière artificielle. Et cette lumière artificielle est tellement vive, tellement puissante, qu'elle vient éclaircir le fond de ciel. C'est-à-dire que s'il y a des aurores vertes en plein centre-ville de Liège, la couleur verte aura beaucoup plus de mal à se scinder du fond de ciel. Il y aura moins de contraste, quoi. Si on veut avoir plus de chances de voir les couleurs des aurores boréales, il faut avoir un ciel noir pour avoir plus de contraste. Et donc, sortir des villes, sortir des villages, aller dans un ciel où il n'y a pas de pollution lumineuse. De mon expérience, j'ai commencé à voir les aurores il y a 2 semaines d'ici, sur les hauteurs de Serein. Et là, il y a un tout petit peu de pollution lumineuse, mais pas comme en centre-ville. Et j'ai vu la couleur verte des aurores. Alors, il est vrai que ça dépend de l'énergie qu'il y a dans le ciel à ce moment-là, mais généralement, ce qui est le plus facilement visible à l'œil nu, c'est la couleur rouge des aurores. Donc, quand on regarde le ciel, il faut souvent regarder vers le nord pour voir les aurores. S'il y a des aurores, on pourra voir un genre de halo un peu rougeâtre, qui fluctue surtout. Parfois, ça va briller très fort. Parfois, ça va diminuer en intensité. Et si on a beaucoup de chance, comme il y a 2 semaines, alors là, on pourra avoir des genres de draperies qui sont vertes si on a un beau ciel, ou peut-être un peu plus grisâtres si on a un ciel un peu plus pollué en termes de pollution lumineuse. Si on a un doute, donc déjà, on regarde avec nos yeux, on se dit « Ah, il y a un truc de bizarre dans le ciel ». Si on a un doute, on prend son appareil photo ou son téléphone, ça suffit. Les détecteurs qui sont dans nos téléphones et dans nos appareils photo sont beaucoup plus sensibles à la lumière que nos yeux. Et donc, on voit un genre de draperie un peu grisâtre, on a un doute, on prend son téléphone, on le met en pause longue, c'est possible, il suffit d'aller dans les paramètres pro de l'appareil photo de son téléphone. Je pense que tous les téléphones modernes actuels ont ce genre de fonctionnalité. Et là, on regarde avec notre téléphone, et là, normalement, au téléphone, les genres de draperies vertes sont censés ressortir. Donc, on va dire que les capteurs des téléphones et les appareils photo jouent comme une vérification à ce niveau-là, d'accord? Mais bien sûr, le plus intéressant, c'est d'abord de regarder avec ses yeux, parce que c'est là qu'on se crée des souvenirs, entre autres, c'est d'apprécier avec ses yeux les phénomènes naturels qui peuvent être visibles dans le ciel, à ce niveau-là, ouais.
Et où est-ce qu'il faut aller pour bien profiter de ça? Parce que tu le dis, au centre-ville, c'est quasi impossible, sur les hauteurs Saint-Nicolas, etc., c'est déjà un peu plus facile, mais c'est quand même très dur. Donc vous allez jusque loin, quand même, pour observer tout ça.
Alors, il faut savoir qu'il y a une petite recette de cuisine à suivre pour maximiser ses chances de voir des aurores boréales, ou des aurores tout court, du coup. D'abord, il faut un ciel sans pollution lumineuse, bien sûr, pour cette histoire de contraste, pour que les couleurs de l'aurore soient beaucoup plus visibles, se délient plus facilement du fond de ciel. Et surtout, il faut avoir un horizon nord qui est dégagé. Les aurores, c'est quelque chose qui se produit surtout à haute latitude. Nous, en Belgique, pour voir des aurores, on doit regarder vers le haut de la Terre, et donc vers le nord, d'accord ? Et si vous voulez regarder vers le nord et qu'il y a une colline, un énorme bâtiment au nord, vous verrez rien, bien sûr. Donc il faut un ciel noir, sans pollution lumineuse, et avec un nord dégagé. Par exemple, ici, lorsqu'il y a eu des aurores, je les ai d'abord vues à mon domicile, sur les hauteurs de Sorin, et puis je me suis déplacé du côté de Fex. Là, on s'éloigne un tout petit peu de la pollution lumineuse, et surtout, du côté de Fex, Liège, le centre-ville de Liège, il est du côté sud. Ça veut dire qu'au nord, il n'y a presque pas de lumière. C'est parfait. Et surtout, l'horizon nord, il est dégagé, parce qu'on est en SB, donc c'est assez plat. Maintenant, nous, l'idéal en Belgique, pour avoir un ciel noir, pas forcément pour regarder des aurores, mais aussi pour profiter de la beauté étoilée du ciel. Forcément, en plein centre-ville, tout le monde le constate, on voit quasi pas d'étoiles. Pour avoir le plus d'étoiles possible et pour voir cette ligne blanche qui peut scinder le ciel en deux parties parfois, qu'on appelle la voie lactée, il faut un ciel noir. En Belgique, c'est assez difficile d'avoir un ciel noir. En tout cas, ça, c'était le cas il y a... jusqu'à avant le Covid, parce que la Belgique était visible depuis l'espace, parce qu'on allumait nos autoroutes. On était un des seuls pays en Europe à allumer nos autoroutes, d'ailleurs, donc catastrophe. Et puis, on s'est rendu compte que ça coûtait très très cher et que ça perturbait la faune et la flore, surtout cet excès de pollution lumineuse. On a éteint nos autoroutes, ce qui a permis de noircir, en quelque sorte, le ciel belge. C'est un peu plus facile maintenant d'avoir un ciel noir en Belgique, mais l'idéal, un des meilleurs spots pour aller voir les étoiles, ou même les aurores en Belgique, c'est prendre sa petite voiture et descendre dans les Ardennes. Là, on est loin de tout, on est au milieu des forêts, on est au milieu des campagnes. Alors c'est magnifique, déjà l'air y est beaucoup plus pur qu'en plein centre-ville, déjà ça c'est incroyable. Et plus précisément, vous pouvez vous rendre à l'observatoire de la Fosse. C'est près de la baraque de friture. Là-bas, il y a un observatoire dans lequel j'officie avec plusieurs collègues, plusieurs astronomes amateurs aussi. Et à cet observatoire, eh bien, on invite des gens, donc c'est gratuit sans réservation. Vous venez comme vous êtes, il faut s'habiller chaudement parce qu'on est en hauteur et il fait un peu plus froid. Et là-bas, on vous montre déjà le beau ciel étoilé qui peut être visible en Belgique. On peut voir plein d'étoiles à l'œil nu, on peut voir la Voie lactée. Rares sont les personnes qui ont déjà vu la Voie lactée en Belgique. Les statistiques disent qu'à peu près 60% des Belges ne peuvent pas voir la Voie lactée à cause de la pollution lumineuse. Mmh. C'est énorme, c'est beaucoup plus que la moitié des Belges, c'est gigantesque. Et sur la Terre entière, on a à peu près un tiers de l'humanité qui ne peut pas voir la Voie lactée. Et là, à l'observatoire de la Fosse, eh bien, vous avez le beau ciel, vous avez la Voie lactée, et surtout, vous pouvez regarder dans nos télescopes, des télescopes qui sont semi-professionnels, si je puis dire, à travers lesquels vous pouvez voir des planètes comme Saturne, Jupiter, ça c'est magnifique. Vous pouvez voir des galaxies, des collisions de galaxies, des cadavres d'étoiles, des nébuleuses planétaires, on appelle ça, des groupes de bébés étoiles, plein de choses comme ça, et surtout des étoiles filantes, parfois, si vous avez de la chance, et surtout au mois d'août, là où il y a les fameuses pluies d'étoiles filantes, des Perséides, là c'est magnifique aussi.
Vous organisez donc tous ces événements à Manet, alors, à cet observatoire de la Fosse, un observatoire qu'on connaît peu, hein, finalement. Mais donc, vous organisez ces événements tous les combien de temps ?
Alors, ça dépend de la disponibilité des animateurs qui font partie du groupe des observateurs à l'observatoire de la Fosse.
C'est ça, ce sont des bénévoles, alors. Vous fonctionnez au bénévolat,
quoi. Ici, on est complètement bénévolat. C'est pour ça aussi, entre autres, que les gens viennent gratuitement. On estime que pour observer le ciel, il n'y a pas besoin de payer.
Le
ciel doit être accessible à tout le monde, à n'importe qui, peu importe les coûts. On s'en fout, vous venez comme vous êtes, c'est le principe. Maintenant, ici, généralement, on essaie de garder une fréquence assez haute en termes de journée porte ouverte, de soirée porte ouverte, si je puis dire. Il faut compter, allez, en moyenne, une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines. C'est souvent le samedi ou le vendredi, d'accord, qu'on fait ça. Maintenant, ça dépend, c'est fort variable. Durant le mois d'août, généralement, on fait un marathon de soirée. On prévoit 4-5 soirées d'affilée durant le pic d'étoiles filantes des Perséides. Parce que il y a beaucoup d'associations astronomiques qui font seulement des soirées d'observation pour le pic d'étoiles filantes. Donc il y a une ou deux soirées maximum autour du 12 août. Nous, on prévoit des créneaux beaucoup plus larges. Entre le 10 et le 15 août, plus ou moins, on fait des soirées tout le temps. Parce que des étoiles filantes sont visibles aussi le 10 août, un peu avant ce pic d'étoiles filantes, ou un peu après ce pic d'étoiles filantes, vers le 15 août, d'accord ? Et voilà. On fait ça à peu près tout le temps, mais ça dépend des événements. Il y aura aussi, par exemple, une éclipse solaire visible en nous. Bien sûr qu'on va ouvrir l'observatoire en journée à ce moment-là, bien sûr. Donc c'est fort variable, mais généralement, on essaie de garder une fréquence de une fois toutes les semaines.
Vous êtes tous des passionnés. Et se passionner pour le ciel, évidemment, c'est une passion qui date de la préhistoire, quoi. Ça fait très très longtemps que les hommes regardent vers le ciel. Comment est-ce que tu interprètes ça? Est-ce que c'est une passion pour toi qui est vitale, etc.? Comment est-ce que tu interprètes cette passion-là chez toi et chez tous les autres de la Société Astronomique de Liège?
Alors, j'aime bien cette question. C'est pas pour rien que on dit que l'astronomie est la plus vieille science de l'humanité. Parce qu'en effet, l'être humain a commencé à observer les étoiles il y a de ça très 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 longtemps. Typiquement au moment de l'Antiquité, voire bien avant de cela. Et on comprend pourquoi l'astronomie est la plus vieille science de l'humanité, parce que pour faire de l'astronomie, en fait, il n'y a besoin de rien à part ses yeux. L'être humain a commencé à observer le ciel sans instrument. Mais alors, à l'époque, il y a très longtemps d'ici, durant la préhistoire, l'Antiquité, l'être humain, nos ancêtres, regardaient le ciel, non pas parce qu'ils s'ennuyaient, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix, surtout. À l'époque, on n'avait pas de boussole, on n'avait pas de calendrier, on n'avait pas de GPS, on n'avait rien de tout ça. Le moyen qu'on avait pour se repérer dans l'espace et dans le temps, entre autres, c'était de se référer aux étoiles. Par exemple, au moment, bien avant l'invention des boussoles, on savait quand même se repérer en regardant la position des étoiles. Dans l'hémisphère nord, on a vu que peu importe l'heure, peu importe les saisons, il y avait une étoile qui était fixe dans le ciel, qui ne bougeait jamais. On l'appelait l'étoile polaire ou l'étoile du nord. Ça, c'est un des moyens qu'a trouvé l'être humain pour se positionner dans l'espace, pour se repérer. Maintenant, c'est pas pour rien aussi qu'on dit qu'astronomie rime avec philosophie. Parce que lorsque nous, finalement, grands primates, on regarde le ciel la nuit, eh bien tout nous porte à philosopher, surtout. Et tout nous porte à nous ramener à notre petitesse dans cette réalité qui est magnifique. Par exemple, en comparant la taille du Soleil et la taille de la Terre, on se rend compte que le Soleil est gigantesque par rapport à la Terre. Le Soleil, il est 1 million de fois plus gros que la Terre. C'est gigantesque, c'est énorme. C'est un peu comme si on avait une fourmi perdue dans la Tour Eiffel. La fourmi, c'est la Terre. Et la Tour Eiffel gigantesque, c'est le Soleil. Alors là, c'est énorme. Une étoile grosse comme 1 million de planètes Terre, qui est notre Soleil. Et alors, bien entendu, il ne faut pas perdre de vue l'idée que le Soleil est très loin de nous. Donc, on le voit tout petit dans le ciel, en quelque sorte. On ne se rend jamais compte de la taille réelle des objets spatiaux. Mais ce n'est pas tout. Le Soleil est énorme, mais le Soleil n'est pas la seule étoile dans notre univers. Dans notre galaxie, par exemple, dans notre Voie lactée. Donc, une galaxie, on peut voir ça comme une immense ville d'étoiles et de planètes. Dans notre Voie lactée, la ville d'étoiles et de planètes dans laquelle on habite, il y a à peu près 300 milliards d'étoiles. C'est énorme. Et les galaxies dans l'univers, il y en a, en veux-tu, en voilà. Il y en a une énorme quantité, plusieurs centaines de milliards, voire bien plus que ça. Et donc, dans l'espace, dans l'univers tout entier, il y a des étoiles qui sont 2 fois, 3 fois plus grosses que le Soleil, peut-être. Et une des étoiles les plus grosses qu'on ait rencontrées à ce jour, on l'a appelée UY Scuti. Une étoile qui est presque contre nature. Parce que cette étoile est grosse comme 5 milliards de soleils. Alors bien sûr qu'imaginez une étoile qui est grosse comme 5 milliards de soleils, le soleil qui est lui-même gros comme 1 million de planètes Terre. Avec ce genre de chiffres astronomiques, notre cerveau il est limité pour se représenter ce genre de taille bien sûr, mais on peut comprendre quelque chose de super intéressant sur notre nature à nous, c'est que nous sommes tout petits.
C'est vrai que c'est assez étrange quand tu regardes le soleil et que tes gosses, T'as une sensation de vertige, là, tu vois. Quand on te dit, c'est infini au-dessus de toi, c'est très, très bizarre de se figurer ça.
Ah oui.
Il y a moyen d'en parler des heures et de philosopher à ce propos-là. Et ça doit être super intéressant d'en philosopher un peu avec plein de gens qui s'y intéressent très, très fort, alors. D'ailleurs, cette passion, elle vient de le plus jeune âge parce que t'as énormément de jeunes qui s'intéressent à ça et qui viennent vous rejoindre à la société. Comment est-ce que tu interprètes ça? C'est une passion qui ne mourra jamais, finalement, cette astronomie.
C'est sûr que c'est une passion qui ne mourra jamais, parce que pour faire de l'astronomie, il suffit de lever les yeux au ciel. Donc tout le monde peut faire de l'astronomie tous les jours, en fait. Donc je suis content d'être presque sûr. J'espère, en tout cas, que l'astronomie sera immortelle. Elle est déjà très très vieille, donc pourquoi est-ce qu'elle devra s'arrêter demain ou dans un mois? Ce serait vachement dommage. Il est vrai que on remarque qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à l'astronomie. Alors, il faut faire attention à un biais là-dedans. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à l'astronomie en général, ou est-ce que c'est parce qu'on s'est inscrit sur les réseaux il y a quelques années d'ici, qui nous a permis de toucher plus de gens? Maintenant, on voit que sur la page Facebook, on est presque 40 000 maintenant. Et c'est incroyable de voir autant de personnes qui s'intéressent à l'astronomie et qui se posent des questions, et c'est super chouette. Et nous, on est là pour y répondre et pour expliquer aux gens plein de choses sur l'espace, notamment sur la page Facebook de la Société Astronomique de Liège. On donne des alertes d'aurores boréales. Donc, si vous voulez savoir quand il y aura des aurores boréales, plus ou moins, eh bien, il faut regarder un peu le contenu qu'on poste sur cette page Facebook.
Pas que les aurores boréales, hein, d'ailleurs, vous parlez donc la pluie d'étoiles filantes, dont tu parlais en nous, etc.
Éclipses solaires, tous les événements astronomiques, en fait, tous les événements qu'on peut voir dans l'espace, des transits ou des conjonctions planétaires, ou alors lorsque la Lune passe devant la Lune passe devant un certain groupe de bébés étoiles, etc. Mm-hmm. Plein d'événements astronomiques qui sont assez chouettes à voir. Ici, comme j'ai dit, on est plus de 40 000 sur la page Facebook, et on voit que lorsqu'on crée des événements en réel, des soirées d'animation à ciel ouvert à l'Observatoire de la Fosse, ou même en place centre-ville de Liège, parfois, il y a parfois plus de 200 personnes à nos événements. Et ça, c'est incroyable. Il y a 10 ans d'ici, il n'y avait pas autant de gens. Donc, c'est juste trop bien de voir que beaucoup de gens s'intéressent à l'astronomie, qui viennent nous voir, qui viennent nous dire bonjour. C'est super chouette, ça.
Vous publiez pas mal de photos, etc. aussi. On peut aussi publier des photos en vous demandant qu'est-ce que j'ai aperçu là, etc.
Oui, tout à fait.
Énormément de gens. C'est assez participatif, quoi.
Oui, c'est ça. Énormément de gens nous demandent, tiens, j'ai vu un certain flash dans le ciel, etc. Alors, ça peut être un satellite, hein, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi parfois des météores, et parfois, nous aussi, on apprend des choses. Par exemple, une petite anecdote, il y a environ un an et demi d'ici, il y a eu un événement dans le ciel. Certains parmi les auditeurs ou les téléspectateurs auraient pu le voir aussi. Il y a eu une genre de grosse spirale bleue dans le ciel, qui était grosse comme 2-3 fois le diamètre de la Lune. Donc, énorme ce truc-là. Et je reçois une photo sur les réseaux sociaux de l'ASL. Je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Trop bizarre. Et moi-même, j'avais pas vu cette chose-là dans le ciel. Il s'avère que plein de gens ont vu cette chose-là dans le ciel. Et on s'est demandé ce que c'était. Et après renseignement, on s'est rendu compte que c'était le dégazage d'une fusée chinoise. Sous l'angle de vue, etc., ça peut apporter des effets spéciaux, comme des spirales un peu bleuâtres.
Ah, ouais, okay.
D'ailleurs, il y a eu un média, pas quatre, hein, je rassure, un autre média dont je ne citerai pas le nom, qui a dit que c'était une galaxie. Alors, si une galaxie était visible dans le ciel belge comme 2-3 fois le diamètre de la Lune, il faut s'en inquiéter, d'accord? Donc voilà, mais c'était pas 4 ici, 4 fait du très bon travail, donc ça n'est pas 4.
Merci, mais oui, ça peut faire peur, hein, quand on voit des trucs dans le ciel. On parle évidemment d'ovnis, etc. Mm-hmm. Hein. Bon, il y avait notamment un gars qui nous avait contacté parce qu'il avait vu un ovni, il nous demandait donc de prendre nos informations, on n'a jamais su ce que c'était, il nous avait envoyé une photo, etc. T'as déjà vu ça, toi ?
J'ai déjà vu des gens qui envoyaient des photos en disant « Ouais, c'est peut-être des ovnis, etc. » Alors, les trois quarts du temps sont des avions. D'accord ? Il suffit de faire attention quand un avion, quand l'avant de l'avion est dirigé vers toi, tu vois le phare de l'avion. Donc, ça donne un gros flash lumineux. On voit pas les petites loupiottes vertes et rouges qu'il y a sur les ailes. Et puis, ce flash lumineux semble décroître parce que l'avion tourne un peu. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Alors, il y a aussi les Starlink. Les Starlink, donc, ce sont des satellites envoyés par SpaceX, qui est détenu par Elon Musk. Et ces satellites sont envoyés par grappe de 60 à peu près. Et quand ces satellites sont lâchés par les fusées, eh bien, on voit 60 petits points blancs qui se déplacent à la queue leu leu. Et ça peut sembler bizarre au début. Donc, c'est normal de se poser des questions. Mais j'ai envie de dire 99% du temps, c'est explicable.
C'est vrai que c'est très bizarre, ça, hein, les Starlink. Ces sortes d'étoiles à la queue leu leu, alors que c'est des satellites.
C'est des satellites,
quoi. Ouais. Mais ça pollue pas trop votre ciel, ça c'est quand même un peu embêtant, non, pour les astronomes.
Il faut remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que depuis Spoutnik, depuis la guerre froide, on s'est rendu compte que l'espace pouvait être utile, à des fins militaires et à des fins économiques, et à des fins scientifiques aussi, bien sûr. On envoie de plus en plus de satellites dans l'espace, et maintenant on est à peu près à 13 000 satellites opérationnels. Alors c'est énorme, 13 000 satellites, et on continue d'en envoyer tout le temps. Déjà, ces satellites réfléchissent la lumière du soleil, parce que les satellites ont des panneaux solaires, et donc ça agit comme un miroir. C'est pour ça qu'on voit des satellites à l'œil nu comme des petits points blancs, comme des petites étoiles qui se déplacent. Alors ça, au niveau de l'astronomie, c'est extrêmement problématique. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait de l'astrophysique, lorsqu'on veut étudier le ciel, on utilise des instruments, des télescopes, d'accord, qui vont pointer le ciel, qui vont pointer une zone du ciel et qui vont collecter la lumière de cette zone du ciel pendant X minutes.
Ouais.
Pour récolter la lumière de l'étoile ou de la galaxie ou de l'objet spatial qu'on regarde.
Que ce soit plus visible, quoi.
C'est ça. Mais si un satellite passe dans le champ de vision du télescope, alors on voit sur les données qu'il y a d'énormes lignes qui passent dans le champ de vision. Et ça, bah, les données scientifiques sont foutues. On peut tout mettre à la poubelle. Et ça, c'est extrêmement compliqué. On a de plus en plus de mal de faire de la science. Et c'est pas tout. Là, on arrive dans un monde, d'ici quelques années, on prévoit que à peu près 50% des objets que vous verrez dans le ciel, ce sera un satellite. Il y aura un satellite pour deux étoiles.
C'est
énorme.
Incroyable.
Et je le vois déjà dans mon expérience. J'observe le ciel depuis que j'ai... ça fait à peu près 10 ans que j'observe le ciel. Il y a 10 ans, on était contents avec nos collègues, avec nos amis, quand on voyait un satellite, c'était exceptionnel. Maintenant, on en voit toutes les 5 minutes presque dans le ciel. C'est énorme. Alors, c'est pas que problématique pour l'astronomie, bien sûr. Il y a aussi des questions environnementales là-dessus. Et c'est pas tout. Il y a aussi un syndrome qu'on appelle le syndrome de Kessler. C'est assez simple à comprendre. Plus vous envoyez de satellites en orbite autour de la Terre, et plus le risque de collision entre ces satellites est hautement probable. Sauf que des satellites qui se rentrent dedans, ça crée une réaction en chaîne. Ces satellites vont se disloquer dans tous les sens, envoyer des morceaux de vis minuscules qui sont intraçables, qui sont envoyés à des vitesses vertigineuses, qui peuvent perforer d'autres satellites, qui vont se fragmenter à leur tour, et ainsi de suite. Et en fait, on va arriver dans un monde, à force d'envoyer autant de satellites, où on aura un mur de ferraille autour de la Terre, et en fait, on se condamne à rester sur Terre. Et ça, c'est assez triste. Donc, il faut faire assez attention. Je dis pas que les satellites sont inutiles. Bien sûr que les satellites sont utiles. C'est pour ça qu'on peut prédire la météo avec des satellites qui regardent la Terre sans cesse. Mais il y a beaucoup de satellites qui, je pense, à mon humble avis, ne sont pas nécessaires actuellement. Les Starlink, par exemple, sont des satellites qui ne sont pas nécessaires actuellement. Les Starlink sont des satellites qui visent à vous donner une connexion Internet ultra rapide, 5G, partout sur Terre, dans le désert, etc. Alors sur papier, oui, c'est chouette, c'est bien, mais est-ce que l'être humain en a besoin en ce moment de ça ? J'en doute très fort, mais ce n'est que mon avis, bien sûr. D'accord ? Alors ça, en ne parlant pas non plus de tourisme spatial, d'accord ? Envoyer des gens dans l'espace, ça sert à rien. Et alors, des gens qui vont vous dire, ah oui, pour se rendre compte que la Terre est fragile, il faut aller dans l'espace. Mais c'est complètement paradoxal. En allant dans l'espace, on pollue énormément. Et on doit polluer pour se rendre compte que la Terre est fragile. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour se rendre compte que la Terre est fragile.
Oui.
Il suffit de regarder tout autour de nous. On le voit tous les jours que la Terre est fragile.
On retourne sur la Lune d'ailleurs, le vendredi 6 février. On ne sait pas encore si la fusée a décollé, étant donné qu'on est en train d'enregistrer cette émission avant le 6 février, juste avant. Donc on ne saurait pas encore dire si ça s'est bien passé, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on retourne sur la Lune ? Explique-nous. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant quand on y est allé.
Alors, il y a un côté excitant quand même aux missions Artemis qui vont avoir lieu, c'est qu'on a un peu le même engouement qu'avec les missions Apollo à l'époque, durant les années 60, où bah, on reprévoit des vols spatiaux habités en dehors des missions faites dans la Station Spatiale Internationale, bien sûr. Alors, cette mission Artemis, qui est la mission Artemis 2, vise à envoyer un groupe d'astronautes, non pas sur la Lune, mais à faire un tour autour de la Lune. En fait, ça, c'est une mission de test pour voir, pour tester un peu les instruments à bord, etc. Et savoir, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de voyages spatiaux sur le long terme comme ça et aller aussi loin. Hein, ça fait depuis les missions Apollo. Donc, c'est une occasion de tester aussi tout ça. Maintenant, ces missions Artemis ont pour but de créer des bases spatiales lunaires. Dans un futur assez lointain quand même, hein, parce que ça, c'est techniquement difficile.
Oui.
Alors pourquoi créer des bases spatiales sur la Lune ? Ça sonne très science-fiction, mais en fait, il y a tout de même un intérêt scientifique bien particulier. C'est que c'est plus facile de faire décoller des fusées depuis la Lune que depuis la Terre, parce que sur la Lune, bah, il y a moins de gravité. Nous, si on va sur la Lune, on peut faire des bonds beaucoup plus haut que sur Terre. Donc c'est un peu le même principe avec les fusées. C'est plus facile de faire décoller des fusées depuis la Lune. Maintenant, voilà, pour créer des bases spatiales lunaires, faudra attendre quand même un bon moment, parce que, comme je l'ai dit, c'est techniquement difficile, bien sûr. Maintenant, il est vrai que il y a aussi des questions à se poser. Est-ce que une présence humaine dans l'espace est nécessaire ? Est-ce que c'est la priorité en ce moment ? Parce que, pour comprendre l'espace, il n'y a pas besoin d'envoyer des humains dans l'espace. On le fait très bien avec des instruments, avec des robots. On envoie des robots sur Mars. On appelle ça des rovers martiens. Mars est la seule planète habitée, mais par des robots d'ailleurs, pour reprendre les paroles de Christophe Galfard. Et il n'y a pas besoin d'envoyer des êtres humains sur d'autres planètes pour les étudier, parce que on a des instruments qui sont plus puissants, plus, je dirais pas plus intelligents que nous non plus, parce que ça pose des problèmes philosophiques à ce niveau-là, mais qui sont plus efficaces que nous pour étudier certaines choses.
C'est fou que tu dises ça en étant astrophysicien, tu vois, c'est un peu le rêve de l'astronaute, etc., qui sont mis en héros. Mais il y a beaucoup de gens qui en reviennent de ça. Et qui se disent, mais ouais, mais ça pose quand même problème au niveau de l'écologie, ça pose quand même problème parce que, au final, quelle est l'utilité? Autant envoyer des robots, etc. Tu fais partie de cette branche des astrophysiciens, alors?
Oui.
Mais c'est intéressant.
Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai souvent la question, t'as étudié l'espace, est-ce que tu rêves d'aller dans l'espace? Ben non. Dans l'espace, on s'ennuie, enfin, y a rien, tout est noir, c'est... Alors oui, on flotte, c'est très chouette, mais ça, on peut encore le faire sur Terre, avec des vols en 0G, c'est encore possible. En fait, je pense que quand on a fait des études d'astrophysique, on les fait parce qu'on ressent un amour profond pour la nature. Parce que étudier l'espace, c'est étudier la nature aussi. C'est pas la nature qu'il y a sur Terre, c'est la nature spatiale. Mais c'est la nature tout de même. Et donc, on se rend encore plus compte de notre fragilité sur cette planète. Il y a plein d'événements cataclysmiques qui peuvent se passer dans l'espace et qui peuvent nous radier en un très bref délai, histoire de faire naître des petites angoisses chez les gens. Mais ici, je veux peut-être pas en parler, mais on se rend compte de notre fragilité dans cette réalité. Et donc, c'est encore plus important de prendre soin de notre condition à ce niveau-là. Alors oui, certes, il faut pas freiner la science. Je pense que comprendre la curiosité est quelque chose d'inhérent à l'être humain. On a besoin de comprendre, bien sûr, mais on peut comprendre le monde qui nous entoure sans forcément polluer et interférer avec lui, notamment en regardant l'espace depuis la Terre ou depuis des satellites qui sont en dehors de l'atmosphère terrestre, ou même si on veut étudier le sol martien ou le sol lunaire, on peut le faire avec des petits robots. C'est comme ça, par exemple, qu'on a compris que la Lune provenait de la Terre. On a vu des similitudes entre le sol lunaire et le sol terrestre. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs milliards d'années, il n'y avait pas de lune autour de la Terre. Et il y a eu une collision énorme entre la Terre et un énorme morceau de caillou, un petit planétésimo. Cette collision était tellement énorme que ça a suffi pour arracher un morceau de Terre. Ce morceau de Terre s'est arrondi sous sa propre gravité, ça a donné la Lune. Et ça, on l'a su avec des rovers lunaires. Donc on peut faire de la science sans mettre des gens dans l'espace et sans interférer et polluer autour de nous. C'est possible, bien sûr.
Tu viens quand même de piquer ma curiosité. Qu'est-ce qui pourrait se passer qui nous radierait, nous, espèce humaine, d'un moment à l'autre, qui pourrait se passer dans l'espace?
Alors, c'est maintenant qu'on ouvre la séquence angoisse chez les gens. C'est bien, c'est là qu'on va se rendre compte que on n'est pas du tout les maîtres de l'univers, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire. Je ne veux pas citer de nom ici. Il y a plein d'événements. Alors, par exemple, on a ce qu'on appelle les sursauts gamma. Les sursauts gamma, ce sont des jets de particules extrêmement énergétiques, qui sont très collimatés, comme des lasers. Ce sont des jets qui viennent du fin fond de l'univers, qui peuvent être produits, par exemple, par des morts d'étoiles. Les étoiles peuvent mourir, par exemple. Et ces jets très énergétiques, et qui émettent énormément de radiation, par conséquent, s'ils sont collimatés vers la Terre, eh bien, ça peut cramer toute la Terre, cramer l'atmosphère terrestre, par exemple.
Il y a peu de chances que ça arrive, ça.
Oui, il y a peu de chances, parce que, bien sûr, l'espace est grand.
Voilà.
Et ouais. vu que cet événement a une provenance qui est très lointaine, les chances sont très infimes que ça arrive, mais pas nulles.
Okay.
Et ça peut arriver à n'importe quel moment sans même qu'on s'en rende compte, parce que ce genre de jet peut voyager à la vitesse de la lumière.
D'accord.
Et donc, par conséquent, on ne pourra jamais le voir arriver. Alors, il n'y a pas que ça. On peut revenir aux aurores boréales.
Oui.
Donc, je parlais d'éruptions solaires. Le soleil, c'est quelque chose qui est hautement imprévisible. C'est comme une marmite d'eau chaude qui boue, quoi. On peut avoir, à un moment donné, des éruptions tellement fortes que ça peut souffler toute l'atmosphère terrestre. Ou peut-être un peu plus doux que ça, qui peut, casser, entre guillemets, surcharger tous les réseaux, tous les transformateurs. Ça veut dire qu'on n'aurait plus Internet pendant un certain laps de temps,
exemple. Okay.
Alors, il faut des éruptions très très fortes, d'accord, très énergétiques. C'est pas fréquent, mais c'est pas impossible non plus.
Okay.
D'accord, on peut avoir... Alors ça, c'est autre chose que j'aime bien, ça. On peut avoir des bulles de faux vide. Alors, il y a une théorie. Cette théorie n'a pas de consensus expérimental. D'accord. Mais c'est pas quelque chose qui est faux non plus. Tout ça pour dire que c'est ni faux ni vrai, c'est encore en étude pour l'instant. Cette théorie du faux vide, ça nous dit que notre univers, en ce moment, il est dans un état métastable. Ça veut dire qu'on imagine qu'on a une petite aiguille. Et sur cette aiguille, il y a une bille qui est posée. précisément, parfaitement, où cette bille est en parfait équilibre. Si personne n'interagit avec la bille va rester sur cette aiguille. Mais il suffit d'un petit courant d'air, d'une petite perturbation pour que cette bille tombe de l'aiguille. Cette bille est dans un état métastable. Et ça, ce serait le cas de notre univers. Notre univers serait posé sur une toute petite aiguille. C'est conceptuel, hein, c'est pas vraiment le cas dans la réalité, mais ici, c'est conceptuel. Et il suffit qu'il y ait une perturbation qui arrive à un moment donné, qui fasse virer notre univers dans un autre état de vide, dans un autre état d'équilibre, qui va en fait changer toutes les lois de la physique. Et cette bulle de faux vide, qui va grandir, 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 plutôt cette bulle de vrai vide qui va grandir, 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 va se déplacer à la vitesse de la lumière, va changer toutes les lois physiques durant sa propagation, et donc on le verra pas venir. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on peut complètement s'annihiler. Alors je trouve ça magnifique, ça fait peur, mais ça nous rend compte de notre petitesse et de notre fragilité dans cette réalité. Et ça nous montre encore une fois de plus qu'il faut profiter de chaque instant, parce que ça peut s'arrêter à tout moment. Mais rassurez-vous, c'est quelque chose qui ça, voilà, ça peut arriver n'importe quand, mais j'espère que c'est hautement improbable.
Voilà, mais ça l'est. C'est quand même hautement improbable.
Mais pas impossible.
Mais pas impossible. oui, le trou noir, alors, etc. Oui, ça, c'est les joyeusetés de l'astronomie, quoi.
Ah oui, c'est quelque chose de magnifique. C'est là-dedans que j'aimerais bien me spécialiser, d'ailleurs, dans les trous noirs.
Mais ça fait peur,
les...
quoi. Ça fait très peur.
Oui, ça fait très peur, mais c'est aussi magnifique. Ça dépend de l'œil dans lequel on le voit. C'est que, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous dépassent dans ce monde.
Oui, oui.
Et il faut apprécier aussi parfois notre ignorance. Je suis profondément convaincu que l'être humain ne pourra jamais tout comprendre. Jamais. Et ça peut frustrer, ça. On aimerait bien croire qu'un jour, on comprendra tout. Mais je ne pense pas. Nous, notre cerveau, il est assez rustique dans sa manière de fonctionner. Et donc, j'ai envie de croire qu'on sera assez ignorant à un certain degré... presque tout le temps, et il faut apprécier cette ignorance, parce que ben ça nous montre qu'il y a des choses qui nous dépassent, et qu'on peut surtout s'autoriser à rêver, ça nous laisse place à la rêverie, et ça c'est magnifique.
Pour apprécier donc ces différentes histoires que tu nous racontes là, bon, évidemment des histoires un peu plus joyeuses aussi,
oui.
Hein, surtout joyeuses.
Surtout joyeuses, oui, bien sûr.
Donc c'est sur votre page Facebook, vous avez un Instagram aussi, ouais. Etc., hein, vous êtes sur les réseaux sociaux avec la Société Astronomique de Liège.
Oui.
Et il est possible donc de devenir coopérateur en quelque sorte et de vous aider un peu parce que vous avez vos locaux, et ça il faut le savoir, à l'ancien observatoire de Liège qui a été revendu alors, moment où on parle, à une société donc qui fait différents logements, etc.
C'est ça, oui. Quand vous nous suivez sur les réseaux, forcément vous voyez qu'une facette de nos activités.
Oui.
En réalité, il y a tout un travail en coulisses avec la Société Astronomique de Liège. C'est une ASBL, par conséquent, on est soumis aux mêmes réglementations qu'une ASBL, des réunions pour discuter de certaines modalités, de l'ASL, etc. Et donc, en effet, on a un QG à l'Observatoire de Cointe, qui maintenant est à l'abandon, a été revendu par un promoteur immobilier pour créer des appartements au standing. Donc, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir rester dans ces locaux-là, et c'est assez dommage parce que l'Observatoire de Cointe, c'est un bâtiment qui est magnifique, unique en région liégeoise, et l'État, la région liégeoise, a eu d'autres idées pour l'avenir de cet observatoire, mais soit. Donc ici, vous pouvez nous soutenir à peu près de plusieurs manières au sein de l'ASL. Vous pouvez déjà venir vous abonner à nos réseaux, donc c'est gratuit, sur Facebook, il suffit de liker la page. On est sur Instagram aussi, sur Instagram, c'est Astro Liège. On a une chaîne YouTube aussi dans laquelle vous pouvez nous suivre, où il y a de la rediffusion des conférences qu'on donne, parce qu'on fait plein d'activités. On donne des conférences, des séances de planétarium, donc c'est comme des observations du ciel, mais sous un dôme, quoi. Quand il y a des nuages, c'est assez pratique en Belgique. On organise aussi des cours d'astronomie, si certains sont intéressés, j'en donne des cours d'astronomie, c'est pour un néophyte, c'est pour n'importe qui, il n'y a pas besoin de notions en sciences, etc. Et c'est à moindre coût, ces cours d'astronomie. C'est à peu près une cinquantaine d'euros pour toute l'année, et il y a à peu près 9 cours, donc c'est assez intéressant. Et vous pouvez aussi nous soutenir, en plus de venir nous voir, nous dire bonjour durant nos événements, en devenant ce qu'on appelle un membre cotisant. En fait, vous pouvez payer un abonnement à la Société Astronomique de Liège, c'est à hauteur de 30 euros par an, donc c'est rien, hein, c'est à peu près une bière par mois, donc ça va, quoi. C'est une bière par mois ou une frite par mois, si on veut. 30€ par an, et vous avez des choses en échange. Déjà, vous nous soutenez, donc c'est super. Avec cet argent-là, nous, on peut faire plein de choses, bien sûr. On n'est pas payé, hein, j'insiste bien là-dessus. Nous, c'est en pur bénévolat. L'argent qu'on reçoit, ça, c'est utile pour faire d'autres activités, acheter d'autres instruments pour la vulgarisation, etc. Et en échange d'être membre, vous avez des petits cadeaux. Déjà, vous avez des réductions à nos événements, à nos conférences, etc. Vous avez une revue d'astronomie qui s'appelle la revue Le Ciel, qui paraît mensuellement dans vos boîtes aux lettres. Et il y a des articles sur l'espace qui, c'est écrit par des membres de notre Société Astronomique de Liège. Et surtout, la cerise sur le gâteau, vous avez l'opportunité d'avoir un télescope chez vous pendant 6 mois, sans coût supplémentaire à part ces frais d'inscription de membres cotisants. Et c'est des gros télescopes, hein. C'est des télescopes qui font 1,20 m de longueur pour 20 cm de diamètre. Avec ça, on peut tout voir, galaxies, planètes, nébuleuses. Pour les enfants, c'est super aussi, et c'est super facile d'utilisation.
De quoi s'y mettre alors?
Ouais. De quoi s'y mettre, oui, ça c'est sûr.
Voir si ça nous plaît, quoi.
Ouais, c'est ça.
Super, Rosario, merci beaucoup hein, de,
avec
nous
plaisir.
Venir, de nous avoir un peu expliqué alors pourquoi on pouvait voir ces aurores boréales et bien d'autres choses. Alors, n'hésitez pas donc à vous intéresser à cette Société Astronomique de Liège. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonnez-vous, likez cette vidéo. Ça nous aidera bien. Ciao.